Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, saison 3, épisode 21. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Thibaut.
Oui, entre deux bâillements, ça va.
Entre deux bâillements. C'est vrai que c'est un peu dur pour toi là. Pour rappel, tu es bien impliqué dans le BIF, le festival francophone, international, pardon. Tu sais, avec tous les IF, les F, ouf. Donc le festival international du film fantastique de Bruxelles, où tu es en train de bosser, des emails, des échanges, des trucs, des derniers détails à régler, puisque rappelle-nous un peu les dates du BIF.
Du 7 au 19 avril.
Tout à fait.
Et on travaille d'arrache-pied.
Oui.
Du coup, ouais, je suis un peu fatigué.
Une belle équipe.
Ça, c'est cool, ça va être bien.
Beau programme.
Je vous ai concocté une programmation de court-métrage canon.
Aux petits oignons. Hein,
ah, un peu là,
on aime bien le dire.
Il va y avoir du lourd.
J'ai vu d'ailleurs un article récemment dans les expressions que les journalistes utilisent le plus en audio. Et aux petits oignons, trois pattes à un canard, c'est assez haut dans le classement.
Ah ouais.
Hein, donc, ceux qui
je pense que chez nous, déjà, il doit y avoir qu'on se le dise.
Qu'on se le dise, oui.
Alors là. Je pense que si on le dit pas 10 fois par émission, on le dit jamais. Hein.
Non. Et qu'on se le dise, on a un beau programme aujourd'hui. Je rigole. Trois films, forcément, comme chaque semaine. Le Prince oublié, c'est le dernier film de Michel Hazanavicius, monsieur OSS 117, mais pas que, bien sûr, monsieur dit artiste, ou encore le redoutable.
Je connais pas, j'avais entendu
fait.
Parler.
Film avec
Inconnu au bataillon.
Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Film avec plein d'effets spéciaux pour les enfants. On en parlera en début d'émission. Il y a aussi le film Fantasy Island ou Nightmare Island par les producteurs de Halloween et Get Out. On est en train du coup de parler d'un film thriller slash horreur qui se déroule sur une île. Oh mais que se passe-t-il ? Forcément, ce sera le deuxième film de la semaine. Et troisième film, c'est Un jour si blanc, un drame islandais. On change tout de suite de ton, hein, clairement.
Ah oui, oui, là oui.
Dans une petite ville perdue d'Islande. C'est aussi sur une île, mais c'est pas le même concept. On en parlera plus tard dans cette émission. Mais je propose que, avant qu'on passe à la revue de presse, qu'on rappelle qu'il est important de s'abonner au podcast sur la plateforme audio de votre choix. Ça peut être sur Android, sur iPhone, n'importe où. Et éventuellement, nous suivre aussi, de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes plus de 300 maintenant à vous être abonné, où vous avez les différentes critiques en séquence, hein, plutôt que tout le podcast. Vous pouvez écouter critique par critique, c'est assez pratique. Et vous pouvez lâcher votre commentaire et un petit like de temps en temps si vous avez apprécié nos voix, notre savoir-faire, notre expertise cinéma.
C'est que malheureusement, pour l'instant, on ne se filme plus, parce qu'on doit encore mettre certaines choses au point.
Oui, c'était pas encore au point. Ceux qui ont regardé les vidéos, il y avait des problèmes de synchronisation, et donc on doit un peu travailler tout ça pour vous donner une expérience un peu plus complète. Audio surround.
Et du coup, vous ratez mon magnifique pull orange aujourd'hui.
Oui, il y a eu des efforts vestimentaires, là.
C'est orange, hein.
C'est pas mal.
Ah ouais.
Ouais, c'est pas mal, j'ai fait un petit trou ici, hein, mais ça se règle. Ah non, il n'y a pas de trou, il y a des petites aérations sur les côtés comme ça.
Merci, je suis sûr que nos auditeurs sont absolument passionnés par cette discussion autour de mon pull.
Une fois n'est pas coutume, ne perdons pas 35 heures et commençons tout de suite par la revue de presse. La revue de presse cette semaine, ça commence par une sad news, hein, ou pas, ça dépend de quel point de vue nous situons sur cette problématique. Il s'agit des Césars, l'Académie des Césars en France qui vient d'annoncer sa démission collective, en tout cas l'administration hein, de l'Académie, parce qu'il y a 4000 membres dans l'Académie, donc s'ils font tous des démissions, c'est un peu compliqué. En tout cas, le conseil d'administration, qui était là depuis belle lurette, a décidé de remettre sa démission, et ça suite aux différents scandales autour notamment des nominations de... Il n'y a pas
alors,
que, hein, mais...
Non, c'est... Enfin... C'est même pas du tout la raison pour laquelle le conseil d'administration des Césars a démissionné. Est-ce que ça a joué, mais dans l'absolu, non, c'est pas du tout ce pourquoi ils ont pris cette décision. En fait, ce que énormément de personnes reprochent à l'Académie, c'est sa non-transparence, c'est son fonctionnement archaïque, qui est assez obscur... Et du coup, il y a énormément de réalisateurs, d'acteurs, etc., enfin, de personnalités du cinéma français qui ont co-signé une pétition pour demander effectivement cette démission, entre autres.
Dont Omar Sy et Michel Hazanavicius, dont on reparlera dans quelques minutes.
Oui, oui, dont Céline Sciamma, enfin bref, franchement, tous les grands noms du cinéma français ont signé cette pétition, cette tribune.
enfin tous les grands noms, à part certaines personnes qui sont bien d'accord avec ce qui se passe actuellement dans le cinéma français, je pense.
Oui, enfin...
Ça m'étonnerait de voir la signature de Danny Boone.
Du coup, ce que ces signataires espèrent, c'est effectivement une refonte complète du système du fonctionnement de l'Académie des Césars. Et ce qu'on peut espérer également lié à cela, c'est effectivement peut-être un certain changement de mentalité. Oui. Parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, il y a le cas Roman Polanski qui existe toujours. Hein, et donc, ça fait toujours jaser, ça fait mauvais genre. Et clairement, je pense que ce cas Roman Polanski crée une certaine dichotomie dans le... Enfin, en tout cas, c'est clivant dans le monde du cinéma français. Clairement. Donc, je pense que cette refonte souhaitée et qui devrait arriver ne peut être que bénéfique tant dans la forme et donc le fonctionnement vraiment réel de l'Académie que le fond et donc c'est-à-dire ça, voilà, cette ouverture, ces changements qui doivent avoir lieu vis-à-vis de certaines choses qui sont problématiques. Voilà. Je vais résumer ça comme ça.
Ben c'est bien résumé.
Le cas Polanski.
Je propose qu'on clôture ce cas assez périlleux de l'Académie des Césars. Aucune information pour l'instant sur l'annulation de la cérémonie. Je sais qu'il n'y a pas encore le César d'honneur qui a été déterminé, forcément.
Non, mais alors il n'est absolument pas question d'annuler la cérémonie, de faire quoi que ce soit.
D'accord.
Et le conseil d'administration va démissionner après. Parce que bon, c'est quand même jamais que dans une semaine. Enfin, deux semaines.
Ça va être bien, belle ambiance à mon avis sur Canal+. Il y aura un chouette spectacle à regarder pour une fois.
Ouais.
On verra.
Écoute, on verra bien, ouais.
Très clairement. J'ai remarqué que j'ai zappé le box-office, j'ai directement été à l'actu grave de la semaine.
Écoute, on fera le box-office après, faisons les news.
Faisons les news, continuons les news. On reparle d'Omar Sy, puisqu'on va en parler cette semaine, qui sera de retour au casting de Jurassic World. Rappelez-vous, hein, il était dans le premier Jurassic World, il y a eu le deuxième entre-temps, Fallen Kingdom, où il n'était pas au casting, non. Avec... l'acteur Jake Johnson, qui était vu dans New Girl, hein, qui joue un peu un geek.
Oui, qui jouait le petit comique de service dans Jurassic World, celui
dans la
qui
salle
avait
des
dinosaures en plastique sur son bureau et qui avait un... C'était quoi, un t-shirt
ou un t-shirt
une casquette de Jurassic Park. Ce qui était un peu de mauvais goût, vu que voilà, le parc n'avait jamais ouvert, bref.
Un clin d'œil.
Voilà.
Ils seront de retour.
Alors... des nombreux éléments de fin de service, si je puis dire.
Oui, bah, c'est un peu à ça que sert le film. Ils sont de retour dans la saga pour le troisième film, qui est donc réalisé par Colin Trevorrow. Pourquoi, dans quel rôle ? Enfin, c'est les mêmes rôles qu'ils avaient avant, hein, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas spécialement des acteurs importants dans le film. C'était vraiment le second rôle, et j'insiste sur le mot second. Donc on va voir... Sans doute qu'ils auront un peu plus de choses à faire dans celui-ci,
oui.
Puisque le profil d'Omar Sy commence à plaire à Hollywood. Il a notamment fait un film maintenant avec Harrison Ford.
Effectivement.
Donc voilà, il commence un peu à se faire reconnaître, notre ami Omar Sy.
Ouais, il a quand même jamais des rôles flamboyants non plus, mais bon, je pense qu'il se fait des petits kiffs à tourner avec des réals sympas, des comédiens sympas.
Il habite là-bas, hein.
Je veux dire, effectivement, si on te propose de tourner avec Harrison Ford, même si le film n'a pas l'air terrible, on va pas se mentir, tu vas pas dire non, quoi.
Oui, surtout qu'en général, le salaire est quand même plus sympa qu'un film amateur français.
Et voilà.
Ça, c'est sûr.
Du bon, Jurassic World, je pense que Colin Trevorrow s'était plutôt bien débrouillé sur le premier. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils partagent pas mal de photos du tournage, de la production, ouais, etc. Ouais. Et ils sont toujours dans le même esprit que cette Sega, c'est-à-dire beaucoup d'animatroniques, etc. Donc, voilà, ça fait cool, ça fait vrai, c'est bien.
Et dernière news, enfin avant-dernière, puisqu'on va un tout petit peu parler d'Astérix quand même, parlons de Batman, puisque Robert Pattinson... Alors,
cette news n'en est pas une.
Non, mais je sais pas
si vous
avez... Je
comprends même pas pourquoi les gens se sont affolés avec ça.
Bah, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les screen tests du costume de Batman porté par Robert Pattinson. Bon, soyons très clairs, dans la vidéo, c'est quasiment impossible de tout voir parce qu'il y a une lumière.
Tu vois que dalle. Ça n'a aucun intérêt.
Bah, c'est juste pour exciter les fans avec un petit teaser. Mais c'est vrai qu'on voit un peu le côté de la mâchoire de Robert Pattinson qui a une mâchoire. Hein,
mais le seul truc qui est, je trouve, limite un petit peu intéressant, mais vraiment limite, hein, c'est que tu vois les grosses coutures de son masque. Tu vois que c'est un truc vraiment en cuir qu'il a sans doute fait lui-même. Et ça change de ce truc, de ses costumes habituels, ouais, qui ont l'air tout droit sortis d'un, d'un pot de latex. Donc voilà, une seule petite indication qui a un tout petit peu d'intérêt, mais pour le reste, franchement, j'ai jamais compris cette folie de qu'ont les gens dès que t'as le nouveau costume d'un super-héros qui est dévoilé. C'est...
You've got my money.
Bah, les couilles, quoi.
Sur les réseaux sociaux,
on s'en fout.
Ok, et dernière, autant qu'on parle d'argent, revenons du coup sur le box-office de la semaine passée. Avec plusieurs news. Sonic le film.
Tu voulais terminer sur Astérix, t'as dit.
Mais on va terminer sur Astérix. On fait d'abord le box-office, tu vois. C'est n'importe comment aujourd'hui. Ah, c'est un journal en vert. Le box-office, c'est Sonic. Sonic le film qui est premier en France avec 800 000 entrées. Alors là, c'est inattendu. Hein, quand on sait que le film a une campagne promotionnelle un peu catastrophique, ils ont dû faire des reshoots à hauteur de 40 à 50 millions de dollars de reshoots. Donc c'est pas que des reshoots, c'est quasiment tout refaire. et 800 000 entrées, c'est pas mal. Et d'ailleurs, aux États-Unis, j'ai vu qu'il a dépassé les 60 millions pour le premier week-end. Donc, très belle performance pour Sonic, c'est très inattendu. Le Prince oublié, c'est le film dont on va parler ensuite. 410 000 entrées en France, donc un bon démarrage. Mais c'est un budget quand même de 25 millions d'euros pour un film français. Donc,
c'est cher. Hein.
C'est très cher pour un film français. Il va falloir qu'il fasse mieux que ça, ou en tout cas que ça marche bien également à l'étranger. Qui sait, en Belgique, hein, il va faire tout l'argent en Belgique, je ne pense pas.
Écoute, je pense que le film ne va pas fonctionner de ouf et qu'il ne rentrera pas dans ses frais.
Oui, je pense aussi. Ouais. On en parlera. Ensuite, il y a Le Voyage du Docteur Dolittle, 355 000 entrées pour un total de 700 000. Ducobu 3, 320 000 entrées pour un total de 700 000 aussi. Et on rappelons, le budget de Dolittle, c'est 175 millions. Le budget de Ducobu, à mon avis, c'est pas la même chose, mais...
non.
Quoique. Et cinquième film, c'est Birds of Prey, donc Harley Quinn, 270 000 entrées, donc... un peu en dessous de 700 000 entrées, donc moins que Ducobu en France. C'est pas mal. Et sachez que Nightmare Island, donc Fantasy Island, le film dont on va parler, est 9e en France avec 150 000 entrées, donc c'est pas du tout un bon score.
Non, bon, après, il a un budget de 7 millions. Hein,
oui, oui.
Les productions Blue Mouse, c'est quand même relativement facile à rembourser.
En général.
Voilà.
Est-ce que ce sera le cas pour celui-ci ? On verra et on en parlera tout de suite. On revient juste encore une fois à une dernière news, puisque le coronavirus va peut-être avoir un impact énorme sur le tournage du prochain Astérix, qui s'appelle L'Empire du Milieu. Forcément, ça se passera en Chine. Certains sites annoncent même que le tournage serait annulé.
Effectivement, l'Empire du Milieu, c'est bien la Chine, hein, et pas le pays du soleil levant, comme on entend de temps en temps, parce que les gens ne savent pas que c'est le Japon. Bref.
Tout à fait.
C'était mon petit moment jugement des gens.
Mais voilà. Si vous avez joué à Medal of Honor... Étant petit, vous savez. Donc du coup, je disais, il y a de fortes chances, et c'est ce que certains médias, notamment des journaux belges très officiels, déclarent que c'est même annulé. Donc il faudra voir si l'information est confirmée dans les prochaines heures, parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais.
Non, mais la production a envoyé un communiqué de presse aujourd'hui, je pense, disant que c'était reporté au mois de septembre les dates de tournage en Chine, qu'ils allaient quand même bien tourner début de l'été, pendant une septantaine de jours, je sais plus exactement, la première partie du tournage, et puis qu'ils allaient faire des prises de vue en Chine, effectivement, a priori vers fin septembre, quelque chose comme ça. Donc je pense que d'ici là, le problème sera réglé.
Oui, je pense pas qu'ils vont annuler un truc pareil avec un accord signé avec Guillaume Canet et Gilles Lelouch, etc. Je pense pas que ça s'annule en 2 secondes 30.
Ah, c'est quand même fou, hein, ce truc de coronavirus, les gens paniquent pour rien.
C'est beaucoup, c'est plus de 1000 décès, mais bon, la grippe chaque année, c'est combien de décès ?
C'est que dalle, quoi. À chaque coronavirus, t'as 800 000 personnes. Cette fois-ci, c'est un peu plus, mais bon. Pas de quoi.
C'est ce que je dis, hein.
C'est pas pandémie non plus. Hein.
La grippe fait plus de morts chaque année. Donc voilà, oui, c'est clair qu'il y a un peu de médiatisation, mais bref, ne parlons pas de ça, c'est pas le but de Cinécast de faire des revues politiques.
Mettez votre main quand vous toussez, lavez-vous les mains, et voilà, problème.
Exactement.
Hein, donc une
belle intro, Thibaut, de 14 minutes, donc c'est bien, on a été court.
Comme d'habitude.
Et on saute tout de suite dans le premier film de la semaine qui s'appelle Le Prince oublié. Et le mot sauter dans le film est assez bien choisi,
je pense. Les circonstances.
Pourquoi ? Parce que c'est un conte pour enfants, Le Prince oublié, où Omar Sy campe un jeune père qui, chaque soir, raconte une histoire à sa fille Sophia. Où lui interprète un prince courageux qui va toujours la sauver, forcément, hein, comme les vieux contes d'antan et d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais, le problème c'est que sa fille grandit, Sophia commence à s'intéresser à des garçons à l'école, à des aventures qui se passent dans sa vie à elle, et le prince va être doucement oublié, d'où le titre du film, n'est-ce pas?
Malin.
Film avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens, tout ça devant la caméra de Michel Hazanavicius. On s'écoute un extrait de la bande-annonce.
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse!
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Comment ça, pas d'histoire?
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires, maintenant. Tu comprends?
C'est la fin, mon pote.
Bonjour. Max.
Monsieur, vous pouvez pas entrer. Le prince va arriver.
Je suis le prince.
Il arrive. Le prince.
C'est quoi ça?
Donc Thibaut, moi je vois cette bande-annonce. En tout cas, je l'écoute dans Cinécast. Et très honnêtement, c'est un film qui me donne envie parce que je me dis, tiens, cinéma français ambitieux, avec un peu d'humour, un peu de féerie. Omar Sy qui a ce côté très likeable, comme on peut dire, comme dans tous ses films. Un concept original qui rappelle parfois des concepts un peu à la Pixar. Est-ce qu'on joue dans le même le même tableau? Est-ce que Michel Hazanavicius a fait son film pour enfants? Ou est-ce que c'est plutôt un essai raté, même si c'est peut-être un peu tôt pour directement donner ton avis? Mais qu'as-tu pensé de ce film-là de manière générale?
Alors je pense qu'effectivement il faut bien que tout le monde comprenne ce qu'est ce film avant d'aller le voir. Si chacun espère voir un film d'Hazanavicius à la, et j'exagère un peu, OSS, etc., vous allez être déçus. Parce que c'est pas du tout le même public qui est visé. Ici, on est clairement devant un film pour les plus jeunes. Donc à partir de ce moment-là, si on se met vraiment dans la bonne optique, il faut apprécier le film pour ce qu'il est, pour le public auquel il est destiné, etc.
Un peu comme le film de Chabat avec le Père Noël qui était...
C'est ça, Santa et compagnie,
voilà,
bien sûr.
Qui était vraiment un film pour enfants, et c'est vrai que si on allait voir ça en disant « Tiens, c'est le nouveau Chabat, ça va être drôle », on allait vite être déçu.
Non, alors bon, c'était quand même drôle.
Mais c'était pas...
Mais voilà. Oui, c'est ça, t'es pas exactement dans la même cible. Et donc forcément, tout ce qui est humour, que ce soit les blagues, les situations, etc., les décors, c'est différent. Ici, on est dans quelque chose pour les plus jeunes. Alors, je ne saurais pas dire une tranche d'âge comme ça, mais je dirais entre 7, 8 et 13, 14 ans.
Bah, l'âge de la petite Sophia, quoi, 8 ans environ.
Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Et on est dans quelque chose de très kitsch, parce que tout le monde des rêves, là où se tournent les rêves, en fait, c'est comme s'ils tournaient des films. Donc le monde où se tournent les rêves, t'as l'impression de voir un plateau de cinéma, mais vraiment très carton-pâte, avec des couleurs hyper vives. C'est du jaune poussin, c'est du rouge, rouge ketchup, hein, tu vois. Voilà, un peu, oui, Aladdin, d'une certaine façon, si tu veux. Il y a vraiment ça. Et du coup, le public... purement adulte qui veut aller voir un Hazanavicius parce qu'il adore Hazanavicius, il va peut-être pas y trouver son compte. Ça en fait pas un mauvais film pour autant, loin de là je trouve, parce que au-delà de ça, dans ce qu'il essaye de faire, dans l'histoire de façon générale, les personnages, les transitions chaque fois entre rêve et réalité, je trouve que il y a une vraie ambition qui est réussie, qui est atteinte. Et qui donne beaucoup de cachet, je trouve, au film. On est vraiment dans quelque chose que pas grand monde se risque à faire. Donc rien que pour ça, c'est important d'avoir un gars comme Hazanavicius, au même titre que Chabat, comme tu le disais, ou que d'autres cinéastes qui se risquent à faire des choses un peu plus difficiles.
Clairement.
Et donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il se donne les moyens de faire ce qu'il veut faire. Bon, on l'a dit, budget de 25 millions environ, c'est très cher. Et je disais que je pensais pas qu'il allait le rembourser. Je suis même presque convaincu qu'il n'arrivera pas à le rembourser.
Bah, le film, attention, a déjà été vendu dans plein de marchés, hein,
bien
notamment
sûr.
En Italie, etc. Donc on sait jamais. Oui, mais bon.
Oui, mais t'as raison de le préciser. C'est vrai qu'avec les marchés étrangers, etc., il y a toujours moyen de. Et c'est grâce aussi aux marchés étrangers que les productions remboursent leurs films. Parce que si c'est juste sur le marché national, c'est un peu compliqué. À part pour certains films français, effectivement, qui sont difficilement exportables. Bah, des films, ouais. Enfin, des trucs assez locaux. Voilà, c'est pas toujours évident de rembourser son film à l'étranger.
Mais on en parlera d'ailleurs.
Mais c'est un paramètre qui, en fait, qui est important et tu fais bien de le mentionner. Donc voilà, je pense que le film pourra se faire une petite carrière, mais on sera pas dans les grands succès qu'Azanavicius a déjà connus par le passé, ça c'est sûr.
Non, mais bon, voilà, c'est pas spécialement non plus son but, hein, et c'est pas un film pour tout le monde, c'est un film surtout pour les enfants. Est-ce qu'il y a quand même cette dimension, c'est sympa pour les parents avec un petit clin d'œil, ou...
Oui.
Ou pas tellement?
Non, si, il y a des choses sympas, mais je pense que pour les parents, ce sera quand même un peu plus difficile. Il y a des moments vraiment très un peu plus lourds, quoi. C'est-à-dire que pour les enfants, ça va être cool parce que voilà, ils vont voir des personnages de leur âge ou presque qui vont vivre des choses que eux vivent aussi. Donc voilà, forcément, oui. Tu peux t'identifier un peu et rentrer plus dans le truc. Et puis tu découvres un univers qui est vraiment assez cool. Après, pour les parents, vu qu'on n'est pas dans un humour peut-être aussi fin que ce qu'ils attendraient, bah voilà, c'est pas le film idéal pour eux. Mais voilà, tu peux quand même passer un bon moment en tant qu'adulte, c'est sûr, parce que il y a des petites choses à grignoter à gauche à droite, quoi. Mais voilà, faut pas s'attendre à du Azanavicius pour adultes.
Oui, très bien. C'est pas une espèce de parodie du film d'enfant, c'est vraiment le film d'enfant classique, bien réalisé du coup, parce que forcément, comme tu le disais, Azanavicius, c'est pas un manche.
La thématique, c'est quand même des contes et des rêves, quoi.
Exactement.
Donc forcément, on est dans quelque chose de très enfantin de base. Donc voilà, c'est
d'où
normal
les
que...
décors, d'où des musiques un peu kitsch, je suppose. Et tout fait
très carton-pâte, très...
Tu parlais notamment
très exagéré.
De François Damiens, qui a un rôle... Un rôle dans le film où là, clairement, il a été pris pour son accent, notamment.
Il fait sa tête un peu de méchant avec sa barbiche. C'est un peu le fakir, quoi, tu vois.
Mais le fakir qui fait pas peur, quoi.
Non. Non, parce qu'en fait, les personnages dans les rêves, là, donc le père fait le prince dans les rêves. Mais une fois qu'eux ont fait le rêve, quand l'histoire est terminée, eux, ils rentrent chez eux, en fait, les personnages.
D'accord. Donc il y a le monde après l'histoire.
C'est
ça. Il y a le Toy Story, en fait.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le prince et le méchant, qui s'appelle Pritprout, ils sont potes, en fait. Donc,
c'est des acteurs, quoi.
C'est ça. C'est des acteurs qui jouent un rêve, si tu veux.
OK.
Donc, tu vois, il y a quand même toute une dimension qui est assez sympathique, hein, et qui l'est aussi pour les adultes. C'est ce que je disais quand je disais qu'il y avait des choses à prendre à gauche, à droite. Donc, voilà, tu vois que tout est bien pensé et qu'il y a... Il y a un truc quand même, il y a du costaud derrière, donc ça c'est chouette. La musique, tu t'en parlais, elle est signée Howard Shore, c'est quand même monsieur,
oui,
c'est Seigneur des Anneaux. Hein,
mais c'est ça, il sort de où
lui ? Compositeur de David Cronenberg. écoute, je sais pas trop où Azanavicius a été le chercher, mais c'est pas la première fois qu'il fait la musique de films français, mais c'est assez rare, et voilà, pourquoi pas, c'est chouette. Musique enregistrée à Bruxelles, hein, comme pour The Artist. Donc voilà.
Comme quoi.
Oui.
On a du talent. Très très bien. Donc Le Prince Oublié, je pense que bon, on a fait le tour. Il n'y a pas 35 000 autres trucs à dire, des surprises narratives ou autres.
Non, mais non.
Donc voilà. Qu'est-ce que tu lui donnes comme note à ce film-là? En tout cas, un film que tu recommandes pour les plus petits.
Un bon 2 étoiles.
Un bon 2 étoiles.
Ouais.
Un bon film familial. Aller voir au cinéma maintenant, avec notamment les vacances qui arrivent. Donc c'est pas mal. C'est bien tombé.
Après les vacances, c'est vrai, j'avais oublié cette chose.
Oui, ça existe encore, cette histoire. Je propose qu'on reste un peu dans le cinéma français, et notamment, on va parler un peu de budget. C'est pas nouveau, hein, le budget du cinéma français, mais je pense que c'est important d'en parler, notamment puisque on a fait le pont avec Le Prince Oublié, avec son budget de 25 millions. Mais très clairement, il y a pas mal de sonnettes d'alarme qui sont tirées en France parce que les budgets des films ne cessent de diminuer. Faut savoir qu'en 2018, un long métrage français a coûté en moyenne 4 millions d'euros. C'était 5 en 2017 et c'est le niveau le plus bas depuis 2009. Donc clairement, il y a clairement un changement dans le financement. Aujourd'hui, 33 productions dépassent les 7 millions. contre 49 également avant, en 2017. Donc du coup, on sent bien la progression des courts-métrages à moins d'un million d'euros, qui là sont passés de 48 à 69. Donc il y a une grosse performance chez les courts-métrages, entre guillemets, pas chers du tout. Non, pardon, les longs-métrages de pas chers du tout. Oui, ça aurait pu être des courts. Mais c'est des films... par contre, il y en a de plus en plus. C'est ça qui est assez drôle. Donc il y a de plus en plus de films, mais de moins en moins de financement. Donc on est clairement dans un modèle de production en chaîne, style téléfilm, ce qui explique parfois des sorties en salle assez discrètes ou parfois complètement incompréhensibles.
Mais oui, c'est ça. En fait, chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et je pense que le système de financement français est un des meilleurs, un des plus performants, un des plus variés, un des plus riches. Et forcément, quand tu as de plus en plus de facilité à faire financer des films, ben c'est de plus en plus facile à faire un film.
Oui.
Et donc voilà, forcément, tu as de plus en plus de films. Donc à un moment, l'enveloppe budgétaire, elle est pas, tu peux pas l'augmenter ad vitam aeternam. Et donc elle reste un peu la même, voire elle diminue. Et donc, soit tu restreins le nombre de films que tu soutiens, soit tu essayes d'en soutenir un maximum, mais forcément, tout le monde a un peu moins, quoi. Donc, voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage, effectivement, c'est que tu peux avoir énormément de films. L'inconvénient, c'est peut-être aussi que tu as énormément de films et que c'est difficile de faire exister tout ça. Et tu le disais très bien, de façon très pertinente, c'est que c'est difficile de se faire une place parmi toutes ces sorties. Et je pense qu'en France, c'est quand même relativement problématique d'avoir autant de sorties chaque semaine. Tout le monde ne peut pas exister. C'est
entre
pas
10 et 15 sorties chaque semaine au cinéma.
C'est hallucinant.
Quand on sait que la personne classique ou moyenne, comme on dit souvent, va une fois et demie au cinéma par an, c'est clair qu'il n'y a pas du tout... il y a trop de films par rapport à la demande, en fait, hein, très clairement. En tout cas, au cinéma, bien sûr, les gens chez eux, en VOD ou quoi, la demande est différente. On a beaucoup plus envie de voir des films ou quoi sur des plateformes à la demande. Ouais. Ou si ça passe à la télé ou quoi, on sera plus amené à les regarder. Mais au cinéma même, ça, c'est vrai que la sortie en cinéma va se faire de plus en plus rare, c'est sûr. Autre chose qui avait été pointée du doigt, notamment, c'était le fait que les chaînes de télévision qui soutiennent beaucoup le cinéma français commencent à diminuer leurs investissements. On parle notamment de 154 millions à 114 pour Canal+, donc une baisse de 40 millions.
Ouais.
Donc c'est pas rien quand même en termes de financement. À côté de ça, les acteurs diminuent leur cachet. Donc ils demandent moins d'argent, par contre, à part Danny Boone, ils demandent moins d'argent, mais ils demandent des pourcentages à la diffusion télé, etc. Donc voilà, ils changent un peu leur donne. Aussi, on travaille plus vite. Hein. Avant, les films étaient faits en 36 jours en moyenne, maintenant c'est 34. Donc on essaie de réduire vraiment production en masse de films. Bref, tu l'as dit, hein, la conséquence, hein, c'est clairement d'essayer de diminuer le nombre de films français, en tout cas produits, et se concentrer sur certaines productions. Juste un petit tour d'ailleurs des films les plus chers qui ont été réalisés en 2018, ça date 2018 les chiffres. On avait Les Frères Sisters, 35 millions d'euros, parce que c'est une production française. Astérix, Le Secret de la Potion Magique, 34 millions d'euros pratiquement.
Bah oui, l'animation ça coûte cher. Hein.
Animation ça coûte cher, mais c'est plus facilement exportable aussi.
Évidemment.
Donc du coup, c'est un pari sans doute bon, puisqu'en plus Astérix est connu partout dans le monde. Le Prince Oublié...
Je m'avancerai pas aussi loin que ça.
En tout cas, c'est bien connu.
Dans certains pays, oui. Oui, on sait que
Astérix quand même. Hein.
En Hongrie, Mission Cléopâtre est un film culte.
Non, ouais, mais c'est pas les Schtroumpfs non plus. Hein,
non, les Schtroumpfs, ça oui, ça c'est connu dans le monde. Astérix, oui. Moins. Hein.
Et Tintin n'est pas connu dans le monde. Enfin,
si, Tintin, si, dans le monde entier.
Oui,
sauf aux États-Unis.
Mais la Battle Schtroumpf Tintin, tu penses que les Schtroumpfs sont plus connus?
Les Schtroumpfs sont plus connus aux États-Unis que Tintin.
Ouais, oui, ça c'est vrai. Le Prince Oublié d'ailleurs est le troisième film avec 25 millions de budget. Il y a Benedetta ensuite de Paul Verhoeven qu'on verra sans doute à Cannes cette année.
Oui, d'office.
20 millions d'euros quand même de budget, c'est pas mal. Et puis après on a les Usual Suspects, hein. On avait Ala 2 avec 19 millions. Nicky Larson 18, Qu'est-ce qu'on a encore fait mon dieu avec 17, Nous finirons ensemble de Guillaume Canet 16 et All Inclusive 15, ça c'est du vol quand même. All Inclusive 15 millions, je sais pas où est passé ce budget. Je sais où il est passé.
Ouais. Mais il s'est pris un four au box-office, donc
c'est ça,
j'espère qu'il n'a pas été remboursé.
Bah, sans doute pas, non. Bref, donc voilà, c'était un peu le point cinéma français et budget, puisqu'on parle souvent de ça, Thibaut, dans le podcast, un peu l'état des lieux du cinéma. Donc on l'a fait, cette petite page. et je propose qu'on la tourne pour retourner au roi de la production cheap américaine, hein, c'est les studios Blumhouse, donc les productions Blumhouse, qui nous a fait un dernier thriller slash film d'horreur qui s'appelle Nightmare Island ou Fantasy Island de Jeff Wadlow, avec Michael Peña et Maggie Q entre autres et Lucy Hale. Alors de quoi parle ce film très concrètement? Il s'agit de jeunes chanceux qui ont la chance comme d'être invités dans un complexe hôtelier de luxe et isolés sur une belle île paradisiaque. Mais forcément, il va se passer quelque chose, hein, leurs fantasmes vont se transformer en cauchemar. Mais que se passe-t-il sous cette île? Y a-t-il Micmac à tirer la rigot? C'est une bonne question. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce.
Je félicite chacun d'entre vous d'avoir gagné le concours. Et je vous souhaite la bienvenue sur l'île.
Et ton fantasme, c'est quoi?
L'île exauce chaque souhait selon les goûts spécifiques des clients. Votre vie est sur le point de changer. Pour toujours. J'espère que vous êtes prête. Comment Lille arrive à faire tout ça? C'est un mystère.
Lille a pu la ramener à la vie.
Alors, c'est quoi ton souhait?
Me venger d'une fille qui me torturait à l'école. La plus populaire de l'école a décidé que je serais sa victime. On va rigoler un peu. Non mais je rêve, c'est vraiment elle? C'est pas ce que je voulais dire!
Bon, Thibaut, c'est quoi cette histoire? On a l'impression d'être dans un Far Cry mélangé à Battle Royale, mélangé à La Cabane dans les bois sur une île. C'est la nouvelle trouvaille des studios Blumhouse de nous mettre mettre dans un festival de musique qui tourne mal presque.
J'aime bien ton mix Far Cry avec ah oui. Je sais plus ce que t'as dit, fin soit c'était
voilà, tu sais plus. Ouais. Donc t'as bien aimé, mais tu sais plus.
Ouais, mais ça m'a fait rire sur le moment. Écoute, est-ce que tu sais déjà qui est Jeff Wadlow?
Bah non, parce justement,
que ce nom t'évoque quelque chose.
J'attendais que tu me le dises.
Alors, il a fait un film, j'ai presque envie de dire culte, même si c'en est pas un, mais dans notre jeunesse, c'est un film dont, entre jeunes, on parlait quand même pas mal. C'est Never Back Down. Ce film où ça se bastonnait, c'était n'importe quoi.
Ça me dit quelque chose.
Moi, je me souviens que dans ma bande de potes, on avait tous vu Never Back Down.
Attends, je vais juste aller voir juste le poster.
Avec Jimon Onsu, c'était n'importe quoi ce film, c'était très drôle.
Ah, en tout cas, le poster est déjà n'importe quoi, mais non, j'ai pas vu ce film.
Bien sûr, non. Écoute, tu n'as rien raté. Peut-être que tu as raté quelque chose quand tu avais 16-17 ans. mais cinématographiquement parlant, tu n'as rien raté. Sinon, ce monsieur a aussi fait Kick-Ass 2.
Ah ouais?
Et l'an dernier, Truth or Dare, ce film que je n'ai pas vu, mais je pense que c'était déjà une production Blumhouse.
Oui, qui avait bien marché d'ailleurs, hein, je pense.
Je pense que
comme
c'est...
toutes les productions.
Mais ouais, mais alors, on peut refaire un truc entier sur... un segment entier sur Blumhouse et son fonctionnement, etc. Mais pour faire très simple, c'est des productions dans lesquelles ils mettent entre 5 et... 10. Grand max 10 millions d'euros, mais je pense que déjà là, 7 millions, c'est déjà le dessus du panier. Hein.
Il y avait Get Out, hein.
Oui, il y avait Get Out. Je sais pas, je connais pas le budget de Get Out, mais bon,
oui, on doit être à ça,
globalement, hein. C'est des budgets relativement faibles qui vont s'exporter partout parce que Blumhouse, c'est Universal, et donc Universal, ils sont partout. Donc, c'est des films qui sont toujours très rentables.
Voilà, c'est des espèces de petits paris, quoi. On va mettre 5 millions à gauche, 5 millions à droite, et il y en a bien un qui va rapporter 100, quoi.
C'est ça.
C'est un peu ça l'histoire.
Ouais. Et donc ici, Fantasy Island, oui, qui s'appelle donc Nightmare Island.
Nightmare Island en France.
Hein.
Ah, en France.
Parce que, Fantasy Island, c'est le titre original.
Fantasy. Fantasia, c'est différent. Hein.
Fantasy Island.
T'as Mickey qui...
Coucou. Non, il n'y a pas Mickey avec des balais qui débarquent.
C'est ça.
On est sur une île. Des chanceux, c'est une façon de voir les choses, autant vous dire qu'ils sont pas si chanceux que ça, évidemment.
On n'est jamais chanceux dans la vie.
On remportait un voyage sur une île paradisiaque, et effectivement, sur place, va être réalisé un de leurs rêves. Voilà, le rêve le plus fou qu'ils ont, ou voilà, leur rêve le plus profond.
Ou collectif?
Individuellement.
D'accord.
Il y a un type qui est venu avec son frère, son frère adoptif. Leur rêve, c'était d'avoir la totale. Et la totale, c'est-à-dire la super belle villa, la grosse soirée dans la villa avec les mannequins. Il y en a un dans le lot qui est gay. Donc comme ça, t'as des jolies filles, t'as des jolis garçons. Tout le monde en a pour son compte.
De bachelor.
T'as de l'alcool, enfin bref. La totale.
T'as dit ça comme, comme dans un night shop. T'as de l'alcool. Ok, oui.
Voilà, ça c'est leur rêve. Il y en a une, elle a été humiliée enfant par une fille à l'école, et donc son rêve c'est de se venger de cette fille.
Ok.
Voilà.
Donc nos rêves les plus sombres ou les plus joyeux, ils sont tous sur l'île, quoi.
Et il y en a un, il rêvait d'être militaire, il est policier, mais il est pas militaire, et voilà, donc il va passer une espèce de journée comme militaire.
D'accord, mais il y a un coût à tout ça, non ? En général, dans la vie, il faut payer.
Alors, ils vont pas le payer en argent, ils vont le payer autrement, sans doute, mais je veux pas dire pourquoi, comment, parce que alors là, on rentre vraiment dans les détails du film, mais disons que tout n'est peut-être pas aussi faux que ça en a l'air, les apparences sont parfois trompeuses. Franchement, je devrais faire speaker dans Secret Story ou j'en sais rien.
Dans Crime. Mais... Tu sais le truc avec Jean-Marc Morandini.
Ah oui. Que...
Crime dans l'Oise.
Mon Dieu.
Oui.
Engagez-moi pour vos voix.
Sur 5euros.com, tu peux vendre ta voix pour 10 mots.
Ouais.
Bref, oui, donc du coup, tu me donnes presque envie de le voir là. C'est quel teasing.
Mais n'est-ce pas.
J'ai l'impression qu'il y a de mauvaises nouvelles dans cette histoire.
Bah, il va y avoir des gens qui vont passer un sale quart d'heure.
D'accord, mais on a un peu un truc à l'assaut, quoi.
Oui, ben, enfin, oui, c'est une production Blumhouse. Donc, voilà.
Ok, ouais. Mais tu laisses tout ça vague. Eh ben, en fait,
mais je laisse vague volontairement parce que, enfin voilà, je veux dire, chacun, leur rêve va pas se dérouler comme prévu, comme ils l'espéraient. Au début, ça va être marrant, et puis ils vont quand même se rendre compte à un moment qu'il y a une couille dans le potage et que tout va pas se dérouler comme prévu. Donc,
dans le potage, c'est pas mal ça. Ok. Et, mais attends, on a presque l'impression que c'est positif, que le film est plutôt pas mal pour ça. Propose un truc un peu sympa, un petit spin.
Mais c'est le lot de toutes les productions Blumhouse, en fait. Hein. C'est un pitch assez sympa, un peu attrayant. Tu sais qu'ils vont se passer des choses un peu cool, un peu sanglante,
tu vas acheter quelques bières, tu vas te mettre au cinoche avec tes potes.
Mais oui, mais bien sûr, mais c'est ça Blumhouse. C'est des produits quand même bien formatés, bien calibrés, et du coup c'est soit t'es vraiment très difficile et du coup bah tu peux arrêter les productions Blumhouse carrément, tu vois. Soit t'es relativement cool par rapport à tout ça et tu te dis bah oui, effectivement ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Là c'est dit, c'est une de mes expressions préférées. mais tu sais que tu vas passer un moment sympa, tu vois, donc c'est voilà, c'est un pur produit, un film Blumhouse.
Ben voilà, très bien. Donc t'as rien à en dire, je suppose. Non, il y a rien de spécial à noter de ce film.
Honnêtement, c'est pas un film incroyable. Dieu sait que je vois bon nombre de films de genre, et donc il y a carrément moyen d'être très exigeant par rapport à ce truc-là. Après, honnêtement, j'en attendais rien du tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait des chouettes idées dans la narration. Au niveau de la mise en scène, il y a l'un ou l'autre truc pas trop mal non plus. Voilà, je trouvais qu'il y avait un peu plus d'ambition que dans la plupart des productions Blumhouse. Voilà, le rendu est sympathique. Ça s'arrête là.
D'accord.
On n'est pas dans le film de l'année.
Est-ce qu'on est dans un film plutôt thriller psychologique ou gore, festival de sang partout?
Ça flirte un peu avec plusieurs styles, donc je vais pas t'en cibler un en particulier, aussi pour laisser les surprises aux auditeurs.
Non, mais que les gens le sachent, est-ce que si on aime bien le thriller, on sera servi, ou si on préfère des trucs gore, enfin voilà, je veux dire, parce qu'en général, les films d'horreur, il y a deux publics. Hein.
Ouais, mais on n'est pas dans le pur thriller.
D'accord.
Il y a un peu de psychologique, mais on n'est pas dans le pur thriller, donc je veux pas le catégoriser comme étant
le catalogué.
Le catalogué aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Je pense aussi.
La fatigue.
T'as vu, quand c'est moi qui te reprends, c'est que ça va pas du
tout.
Ouais.
Mais on n'est pas dans le truc gore du tout non plus.
D'accord.
Voilà,
reste accessible, quoi. C'est pas un truc, tu sais, hostel dans l'île.
Bah, non, mais c'est une force et je pense une des faiblesses des films Blumhouse.
Pas de parti pris.
On reste dans un truc relativement, relativement trop cadré. Et du coup, il va jamais te faire un film vraiment qui va à fond dans le truc, qui sera PG-17 ou enfin R-rated.
Hein. Il faut que ça reste accessible. Du coup, on se mouille pas trop, quoi.
C'est ça, voilà. C'est ça.
Et on devrait, parce qu'avec un film pareil, il y a moyen de faire des trucs.
Je pense qu'il y a assez de talent dans cette boîte que pour faire des trucs qui vont loin. Après, c'est pas leur objectif, donc voilà, c'est dommage.
C'est les pépettes. Très bien, mais écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le casting, Michael Peña, ou bien très anecdotique. En général, les personnages sont très fans dans ce genre d'histoire.
Oh oui, ça c'est sûr. Bah écoute, Michael Peña, moi j'adore ce gars, donc je suis toujours très content de le retrouver. Bah pour le reste, on retrouve Lucy Hale, qui était déjà dans Truth or Dare, et qui a un des rôles principaux du film. Écoute, ils font le boulot.
Voilà. Mais voilà. Écoute, on va clôturer là-dessus, parce que je sens bien que il n'y a pas 35 000 trucs à dire sur ce
non,
film.
Non.
Combien tu lui donnes comme cotation, du coup?
Allez, une étoile, faut pas déconner.
Une étoile pour ouais. Nightmare Island ou Fantasy Island. Et ben voilà. Voilà qui avance bien dans cet épisode. Pour une fois, on est pas trop mal là. On est à 40 minutes après deux films, c'est très bien.
C'est rare, hein. C'est
mais
rare.
Restons sur le concept des îles et des thrillers qui se déroulent sur des îles, parce que c'est une facilité scénaristique, entre guillemets, un concept qui est souvent utilisé au cinéma. Hein. Ils sont prisonniers sur une île, dadada. Et ça se prête très bien au thriller, ce genre de situation-là, parce qu'à huis clos, sur une île, il y a moyen de faire des trucs assez sympas, d'un point de vue visuel aussi, hein, filmer des falaises, les vagues, être entouré par cette espèce de sensation de solitude aussi. Pas mal de films se sont déroulés sur des îles. J'ai fait une petite liste, hein, mais... Bah oui, on peut commencer par celui-là. Forcément, on parlait au début de l'émission de Jurassic World. Jurassic Park, oui, c'est sur une île que ça se déroule, un peu comme Hawaï, hein, même concept. L'idée, c'est que vous connaissez ce film de Steven Spielberg. Ce sont des scientifiques qui ont réussi à cloner des dinosaures et qui ont fait un parc d'attractions avec des dinosaures. Quelle excellente idée. Et il se trouve que ce parc va... partir en sucette. Et donc, du coup, forcément, qui dit dinosaure hors de la cage dit gros merdier. Donc, c'était tout à fait un film. Bon, il y avait quelques éléments de thriller dans le premier Jurassic Park, mais c'était plus aventure.
Oui, voire limite. Alors, je vais pas dire horreur, mais t'as des scènes qui étaient quand même très flippantes. Hein.
La scène de la cuisine.
Mais oui, je suis sûr qu'on en a déjà parlé dans le podcast, mais effectivement. La scène du vélociraptor dans la cuisine, c'était bien flippant.
Ouais. Et la scène de la vache qui n'était pas spécialement flippante, mais c'était quand tu étais petit, voir une vache qui se fait dévorer, enfin en tout cas, tu ne la vois pas se faire dévorer, mais tu vois juste le truc qui remonte avec du sang, tu te dis, oui, il n'y a plus la vache. Donc voilà, c'est clair que bon, on ne va pas faire 10 heures sur Jurassic Park.
C'était une chèvre. Hein. Non, il y a une vache aussi avant, c'est vrai. Oui, pardon.
Ou bien c'est la. Tu sais, moi, les vaches, c'est comme Twister, hein, je vois des vaches qui. Donc. Ça c'était Jurassic Park, forcément il y a plusieurs films avec DiCaprio, il y en a deux, hein, ce qui se passe sur des îles, il y a eu Shutter Island de Martin Scorsese, on en a beaucoup parlé aussi,
oui.
La plage de Danny Boyle, qui était un peu une sorte de thriller quand même.
C'était,
hein.
C'était vraiment sur une île cette plage ou c'était sur le continent, je ne sais plus trop.
Copipi.
Ah oui, juste.
Ouais, donc c'est sur une île qui maintenant est fermée, on ne peut plus y aller.
Ah.
Fini, copipi. Oui, plage.
Cofini, j'ai envie de dire.
Cofini. La plage, c'est qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est en vacances en Thaïlande, qui prend des champignons et qui a son voisin, je pense, de chambre qui se fait assassiner ou un truc comme ça. C'est bien glauque, il y a du sang. Et il reçoit un message comme quoi il y a un endroit secret où il faut absolument qu'il aille. Et il invite Guillaume Canet au passage.
Et Virginie Ledoyen.
Et Virginie Ledoyen à leur chemin sur cette aventure un peu barrée. Ils arrivent sur une île et. Tombe sur une communauté. Mais que se passe-t-il avec cette communauté? Quelles sont ses intentions?
C'était Tilda Swinton qui faisait.
Jodie Foster, peut-être.
Je sais plus.
Ça remonte à longtemps, à la plage, avec la musique de Bobby, qui était assez sympathique, assez cool. Film qui a fait découvrir, en tout cas, Kopipi et la Thaïlande à beaucoup de monde.
C'était bien Tilda Swinton. Mes souvenirs sont. Ça va. J'ai confiance en eux.
Autre film qui se passe sur une île.
Seul au monde, accessoirement.
Oh, mais c'est pas vraiment un thriller.
Oh, non, c'est vrai.
Non, hein.
Non, si tu veux vraiment que des purs thrillers, non.
Ouais, la thriller Battle Royale, c'est...
Ah.
Là, c'est ton domaine, ça.
Oh oui, là, Battle Royale, on est dans le thriller.
Tu peux en parler un petit peu de Battle Royale, de manière générale, ceux qui nous écoutent, à part parce que certaines personnes pensent encore que c'est Hunger Games, mais c'est pas...
Y a beaucoup de gens, et puis il y en a de moins en moins.
Surtout à 40 minutes.
Ouais. Mais tu peux pas résumer Battle Royale. Battle Royale, tu dois le voir. Franchement, c'est...
Oui.
Parce que non, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de gens font ah oui Hunger Games et puis en fait les gens te disent ah oui mais c'est comme Battle Royale en fait Hunger Games. Oui, non. Alors sur le concept, en tout cas une partie du concept, oui. C'est des gens qui doivent s'entretuer. Après, voilà, c'est un peu plus complexe que ça.
Sophisticated.
Voilà. Mais oui, je pense que... Enfin, si des gens ont regardé Battle Royale parce qu'ils ont vu qu'on comparait Hunger Games à ça, je suis content. Rien que pour ça, je suis content.
Très bien. Voilà. Et dernier film que tu as vu récemment, The Lighthouse, avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, qui se passe sur une île, dans un phare plus particulièrement, où deux gardiens de phare doivent rester ensemble pendant un long moment. Et y a des éléments de thriller dans ce film-là, puisqu'il y a une ambiance un peu glauque qui s'installe entre les deux hommes assez rapidement.
Oui.
Même si le film a d'autres styles aussi, d'autres genres, on n'est pas que dans le thriller.
Hein. Ouais, et c'est... À nouveau, ça fait genre je botte en touche, mais c'est un film très difficilement qualifiable.
Oui.
Parce que c'est pas expérimental, mais c'est pas un thriller, mais c'est pas un film fantastique. Enfin, si, c'est un peu tout ça, en fait. Donc, c'est très compliqué d'aller expliquer exactement ce qui se passe dans The Lighthouse, mais pour faire très simple. C'est des types qui perdent un peu la boule sur le reel.
Voilà. Mais on n'en avait pas fait la critique du film. Est-ce que tu le recommandes ou...
Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Regardez The Lighthouse. Voilà, mais il était sorti en salle en France. À mon avis, il n'y est plus maintenant depuis un moment. Enfin, il n'est plus dans les salles, certainement. Donc, espérons qu'il sorte prochainement.
Oui, je pense.
Blu-ray, etc., etc.
etc.
Voilà, pour faire simple. Mais voilà. J'aimerais bien terminer, si tu as fini ta liste.
J'ai fini.
Deux autres films.
Vas-y.
Enfin, deux. Il y en a un... En fait, il y en a 45.
Oui, c'est King Kong. Sur les îles, oui, bah oui.
Et voilà, évidemment.
Il y a Skull Island aussi, qui est bon.
Mais surtout, le plus grand, Les Dents de la Mer de Spielberg. Ça se déroule sur une île quand même, faut le rappeler.
Ah ouais ?
Mais oui, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, les vacanciers arrivent sur l'île. Alors je pense, je sais plus s'il y a un pont qui relie l'île au continent ou s'ils doivent prendre un bac. Je pense qu'ils prennent un bac. Parce qu'il me semble qu'il y a une scène sur le bac à un moment. Donc voilà, oui, Les Dents de la Mer se déroulent sur une île, pour petit rappel.
Bah écoute, très bien, je crois que c'est une belle liste du coup, de thrillers qui se déroulent sur une île, si vous n'avez pas encore tout vu, il y a des films à rattraper.
Ah oui, il y en a encore plein d'autres, hein. On ne les cite pas tous, hein, mais voilà.
L'évadé d'Alcatraz, évidemment.
Il y a plein de nanars.
C'est une des îles les plus connues au monde.
Oui, bon, The Rock aussi.
Et il y a plein de... Il y a plein de...
Oui.
Bon, non. Mais il y a plein d'autres films qui se passent sur des îles et beaucoup de films de série B aussi, hein, ou de films de genre qui se passent sur des îles avec Attrape-moi, Island, ou des trucs comme ça. Voilà.
Il y a de très beaux films. Lettre d'Iwo Jima, de Clint Eastwood. Chef-d'œuvre absolument magnifique.
C'est vrai qu'on en fait beaucoup.
Qui est une super belle musique de son fils, Kyle Eastwood, qui tourne beaucoup en France, énormément, très souvent en concert en France. J'ai vu qu'il était de passage en Belgique au mois de mai. Je crois que je vais aller le voir parce que.
Écoute.
J'adore ce qu'il fait.
Fais-toi plaisir, hein, j'ai envie de dire.
Mais ouais.
Passons.
Attends,
encore
pour terminer. Non, c'est mais vu que je parlais de musique, de film là pour l'instant, il va y avoir un concert de Joker. J'ai vu en France et à Bruxelles.
Allez.
Le film Joker avec orchestre. Voilà.
Foutu, il,
mais c'est il... pas c'est pas Hildur Guðnadóttir qui.
Elle aurait pu cacher.
Ça aurait été sympa.
C'est cool ça. C'est,
bah
ouais, écoute, c'est quand c'est, il y a déjà des dates annoncées.
Ouais, j'ai vu qu'il y avait des
vas-y,
dates.
Vas-y, balance. C'est important. Je vais combler.
Alors en France, je sais pas exactement, mais en Belgique.
En Belgique, chez nous.
C'est prévu au Palais 12.
Ouf.
Le 12 mai 2020.
Voilà. Moi, je vais y aller.
Ah oui, écoute, je t'en prie.
Pourquoi pas, ça coûte 60 boules.
Je serai en partance au Festival de Cannes.
Bah oui.
Voilà, je serai sur la croisade.
Écoutez, très bien. Voilà, qui résume bien la situation.
Oui,
on passe au dernier film de la semaine, si tu le veux bien.
Je le veux bien.
Allez. Tu veux bien, ça s'appelle...
Ça va, on est... Et attends, on fait beaucoup plus court que d'habitude, là. Hein. On est largement dans les temps.
On va arriver à l'heure, ne t'inquiète pas.
Ah, d'accord.
Un jour si blanc, film islandais, danois et suédois, la Trinité. Qui raconte quoi ? Qui raconte en fait dans une petite ville perdue d'Islande, un commissaire de police qui est en congé, qui soupçonne un homme du coin d'avoir eu une aventure avec sa femme qui est récemment décédée dans un accident de voiture. Donc du coup, boah, ça commence bien, c'est positif attitude. Et sa recherche de la vérité va tourner à une obsession, forcément, qui va s'intensifier, qui va le mener inévitablement à se mettre en danger. Lui et ses proches, on a l'impression d'être dans un synopsis à la prisonnier de Denis Villeneuve, sauf que là, c'est une question d'une petite fille qui a disparu, c'est plutôt question de est-ce que il y a eu...
Est-ce que monsieur a trempé le biscuit ?
Oui, bon. Cette émission perd en qualité chaque année. Oui, donc très bien. Est-ce qu'il a trempé le biscuit dans sa femme morte? Voilà la question.
Oh mon dieu. Ah oui, alors là, tu l'as vraiment présenté de manière très glauque.
Oui, bah quoi. Sa femme morte depuis. Hein, c'est très esprit bif.
Depuis, oui.
Le mot depuis est important. Forcément, c'est pas très gentil de rigoler de ça.
Soit, franchement, cela dit, s'il l'a fait quand elle était encore chaude, ça passe.
Oh, c'est dégueulasse.
J'ai un peu honte.
Heureusement que plus personne n'écoute maintenant. Mais ouais. Voilà. Donc du coup,
les auditeurs sont partis. Si vous avez entendu cette blague absolument de très mauvais goût, dites-le en commentaire.
Il y a des gens sur YouTube qui nous ont écouté. Donc voilà, qui ne manqueront pas de partager leur avis, bien sûr, sur notre humour douteux. Film dramatique. On n'est pas du tout dans quelque chose de spécial. On est vraiment dans du drame pur qui joue sur un ton. Quel était ton avis sur ce film-là? Est-ce que tu as des choses en plus à raconter sur ce synopsis, puisqu'il n'y aura pas de bande-annonce hein, dans ce cas-ci?
Ah oui. Bah, tu crois que les auditeurs ne parlent pas l'islandais?
Non.
D'accord, ok. Alors, que dire sur Un jour si blanc, A White White Day en anglais.
English.
J'ai vu ce film à Cannes, à la semaine de la critique, parce que je me suis dit, un chouette titre, film islandais, je vais y aller. Parce que le cinéma islandais, c'est bien. C'est très bien. Il y a toujours des petites pépites. Et pour n'en citer que deux, trois, je vous conseille Bélier, sorti en 2015.
Pas la famille.
Woman at War, il y a deux ans. Hein, excellent, Woman at War. Ou encore Des chevaux et des hommes, Sparrows, enfin bref. Il y a chaque année une petite pépite islandaise qui sort. Et cette année, c'est White White Day. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le film, je vais détailler ça après. J'ai donc demandé une interview avec le réalisateur, et puis pam, un petit dégât des eaux dans mon appartement m'a empêché de faire cette interview. Donc bref, j'étais très frustré. Parce que, voilà, petite perle du cinéma islandais, comme je le disais, White White Day, c'est une bonne histoire, bien bizarre quand même, bien glauque.
Ah, ça c'est sûr.
Oui, bien glauque comme il faut. je vais m'arrêter là. Et donc voilà, forcément, en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, j'adore la tonalité qu'ont les films nordiques et scandinaves, parce qu'il y a toujours un truc un peu particulier, que ce soit dans la photographie, qui est toujours assez léché, un peu clair, mais voilà, ils jouent énormément avec jouent avec le noir, j'allais dire. T'as souvent des scènes de nuit dans les films islandais, etc. Donc voilà, il y a toujours des atmosphères très particulières,
un climat qui hyper fort qui se prête très bien à des films plus dramatiques et ouais. Forcément thriller aussi.
Ah bah oui, parce que les paysages, souvent t'es dans des trous perdus où ils sont obligés de prendre la bagnole. Enfin bref, t'as vraiment limite une patine assez propre aux films scandinaves et films du Nord. Parce que je ne sais jamais si enfin, techniquement, l'Islande n'est pas un pays scandinave. Mais
Non.
Voilà.
Mais ça peut faire penser à des films en effet suédois ou norvégiens.
Voilà, mais oui, c'est ça. Il y a quand même une espèce de, j'ai envie de dire, de mentalité, de culture.
Une froideur.
Froideur qui est propre à ces pays-là et commune à ces pays-là. Donc, je vais continuer à dire film scandinave si vous n'y voyez
pas d'inconvénient.
Le film tient en grande partie grâce à son acteur principal qui s'appelle Ingvar Eggert Sigurdsson, un acteur absolument fantastique. Ce n'est pas très islandais ce que tu viens de faire.
Non.
mais ce gars est absolument fantastique. Déjà, il a une gueule de ouf.
Oui.
Il a une énergie dingue. Enfin bref, j'ai adoré ce type. Je ne l'ai pas vu dans énormément de films auparavant. Enfin, si, plus que ce qu'on pense, parce qu'il a joué dans pas mal de blockbusters, style Everest, style Les Animaux Fantastiques, etc. Mais ici, il a le premier rôle, donc tu ne vois que lui de tout le film. Et ce type est absolument génial, parce qu'il joue quand même, pour rappel, un personnage de flic qui a été mis à pied, en tout cas, il est en pause professionnelle.
Oui.
La femme dont l'épouse est décédée, et il va se mettre à chercher le type qu'il pense, enfin avec qui il pense que sa femme l'a trompé, quoi. C'est quand même chaud.
Oui, c'est faut le faire quand même, faut aller loin.
Que tu veuilles avoir des explications éventuellement avec ta femme, etc. Quand tu, enfin, de manière normale, elle est vivante,
oui.
Elle t'a trompé, voilà. Ok. mais vouloir aller chercher le type et qui tu penses que ta femme t'a trompé alors qu'elle est déjà décédée depuis, c'est chaud quoi.
C'est qu'on a des problèmes qu'on n'a pas réglés.
Et ben voilà, voilà. Et c'est bien ça le problème. C'est que des problèmes, il en a, il va en avoir, et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc parce que, évidemment, rien que quand tu racontes ce genre de pitch, bah tu sais, ou tu soupçonnes que ça va aller relativement loin. Effectivement, ça va assez loin. Après, c'est pas le seul... c'est vraiment le gros fil blanc du film. Enfin, le fil blanc, le fil rouge. Mais on est dans un jour si blanc, donc forcément, voilà.
Oui, c'était pas mal, je l'ai trouvé.
C'est le fil rouge, mais il y a d'autres choses, parce que ce gars a des enfants, il a une petite fille de laquelle il est très proche, donc il passe énormément de temps avec sa petite fille. Mm-hmm. Voilà, il va se passer d'autres choses dans le film. Mais cette histoire, ce fil rouge, va avoir évidemment des conséquences sur chacune des histoires parallèles. Donc voilà, c'est un film qui, je trouvais, construit de manière assez simple, mais intelligente, qui fait que tu perds pas le fil, t'es toujours à fond dedans, t'as envie de savoir ce qui se passe. Et puis voilà, c'est les films islandais, c'est du papier à lettres, quoi.
C'est l'atmosphère,
c'est carré, ouais, c'est toute une ambiance, comme on le disait au début. Donc voilà, c'est vraiment du bon matos,
du grand
cinéma.
C'est
du bon produit, enfin produit, oui et non, hein, on n'est pas dans le truc formaté comme Lumox. Mais voilà, on est dans un artisanat qui a vraiment sa propre identité, commune certes à plusieurs pays, c'est un cinéma de qualité.
Du bon grand cinéma d'auteur, du coup, venu de l'Islande.
Ah ouais, moi j'achète, hein, chaque fois.
Combien d'étoiles, du coup, un jour si blanc?
Bah, bon, 3 étoiles.
Un bon 3 étoiles, c'est donc le film de la semaine.
Effectivement.
Mesdames et messieurs.
De loin.
Belle semaine, du coup, dans Cinécast, hein, avec un jour si blanc, forcément 3 étoiles. Fantasy Island, c'était 1 étoile. Et Le Prince oublié, 2 étoiles. Un bon film réussi de la part de Michel Hazanavicius pour la famille et les enfants. On parcourt un peu, les films de cette semaine. Il y en a eu d'autres, hein, et pas qu'un peu. L'Appel de la forêt, justement, avec Omar Sy et Harrison Ford, qui sortait cette semaine, et Karen Gillian aussi. Sonic, le film donc de Hedgehog, c'est cette semaine aussi en Belgique avec Jim Carrey. Quand même, Jim Carrey qui apparemment vole la vedette, hein, dans le film, il paraît qu'il est assez bon. Le Viking et l'épée magique, on parle donc de films d'animation, décidément c'est pas un super choix cette semaine pour Le Prince oublié. Un jour si blanc, on vient d'en parler, 3 étoiles. 10 jours sans maman, c'est le nouveau film avec Franck Dubosc. La comédie annuelle avec Franck Dubosc, avec les lettres en jaune.
Et je pense que c'est bien parti pour se prendre un four aussi.
Oui, ouais, il paraît que c'est assez calamiteux. Ensuite, il y a le film Sam Sam, film d'animation familiale, décidément. Et forcément, Le Prince oublié, dont on a parlé, 2 étoiles. La semaine prochaine, on vous parlera de Dark Waters. C'est quoi? C'est le nouveau film de Todd Haynes avec Mark Ruffalo et Anne Hathaway.
Mark Ruffalo et Todd Haynes qui sont venus entre... Ils sont partis de Paris pour la promo un jour au matin. Ils ont passé 2 heures à Bruxelles pour aller faire coucou à la Commission européenne ou au Parlement.
Talis à gauche, Talis à droite.
Et dire les produits chimiques, c'est pas bien. Et puis reprendre un Eurostar direction Londres dans la journée. Donc promo à fond.
Promo qui a été chronométré, millimétré. Ça, ah oui, c'est là, sûr. Surtout qu'en plus, quand on prend l'Eurostar, il faut être là 30 minutes avant pour faire le check-in. Enfin, soit. Autre film qui sort la semaine prochaine, c'est The Gentleman avec Guy Ritchie. Film très attendu parce que c'est Guy Ritchie qui revient un peu au film de gangster britannique.
C'est Guy Ritchie qui fait du Guy Ritchie, on en parlera plus longuement. Le film est déjà sorti en France depuis une semaine ou deux.
Et en Angleterre.
Je pense qu'il rencontre pas un succès énorme.
Non.
Mais voilà, je dirais du bien de Gentleman la semaine prochaine.
Et on parlera aussi de Lucky de Olivier Van Hofstadt, Monsieur Dickeneck, qui nous revient avec un film qui a l'air tout aussi barré, avec au casting Michael Youn, Alban Ivanov et Florence Foresti.
L'affiche est bien dégueulasse, mais moi j'achète. Voilà. Oui. Enfin, j'achète, j'ai pas encore vu le film.
Non.
Je vais le rattraper d'ici là.
On mentionnera rapidement 2 films qu'on a vus à Venise, et d'ailleurs il y a déjà les critiques disponibles sur la chaîne YouTube notamment. C'est Mes jours de gloire de Antoine de Barry avec Vincent Lacoste et La vérité de Hirokazu Koreeda avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ethan Hawke.
Ouais, donc effectivement c'est déjà en ligne sur YouTube depuis la Mostra de Venise. Et pareil sur Ocha. Hein. Voilà,
oui, c'est vrai.
Podcast disponible un peu partout. Donc on redira dans le podcast de la semaine prochaine que. C'est déjà en ligne, et donc on ne s'attardera plus dessus. Comme ça, on peut vous parler d'autres choses aussi.
Bah, c'est très bien, ça me semble rondement mené tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté Cinécast. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme audio de votre choix ou sur la chaîne YouTube de Cinécast pour avoir accès aux différentes critiques. Comme toujours, on regardera hein, qui s'est abonné et l'un d'entre vous gagnera 2 places de cinéma UGC. On vous enverra tout ça par email. Voilà, voilà. Merci à toutes et à tous.
Des bisous.
Des bisous. Ciao, ciao.